Bonjour mesdames et messieurs, le bateau décolle. Voilà, nous allons commencer. Prenez place. On était en train de regarder, Mathieu Ricard me montrait des photos noir et blanc de son prochain album, que je vous signale tout de suite, qui va paraître le 16 octobre, c'est ça ? Aux éditions La Martinière, et qui s'intitule...
Visage de paix, terre de sérénité.
Voilà, nous voilà dans le vif du sujet.
Un programme.
Je remercie vivement Mathieu Ricard d'être venu jusqu'à Morges au Livre sur les quais et de nous accompagner dans cette croisière qui va donc durer, on a à peu près 1h20 devant nous. Les 20-25 dernières minutes seront pour vos questions. Parce qu'avant, c'est très difficile d'arrêter Mathieu Ricard. On lui pose une question et puis c'est dur de poser la deuxième. Alors, je ne vous le présente pas longuement puisque vous êtes là, vous savez. On va peut-être commencer par l'actualité. Et non pas parler tout de suite d'un livre parmi les nombreux que vous avez publiés récemment, mais le Népal. Vous rentrez du Népal, oui. Votre association Karuna s'occupe beaucoup de tous les gens qui ont souffert du séisme et vous faites quelque chose de très spécial.
Oui, alors effectivement, moi j'ai la chance de vivre dans l'Himalaya depuis bientôt un demi-siècle. Ça ne rajeunit pas. Donc, Karuna, cette chaîne existe. Enfin, nous sommes là depuis longtemps, mais en tant qu'organisation qui s'implique dans le monde humanitaire, social, etc., ça fait à peu près 15 ans que nous avons entrepris sérieusement des projets. Et donc, nous sommes une organisation du terrain. Ce qui fait que, habituellement, en temps normal, nous traitons environ 120 000 patients par an en Inde, au Népal et au Tibet. Et avons 25 000 enfants dans les écoles que nous avons construites. Là, évidemment, il y a eu ces deux séismes majeurs. Le deuxième a été, dans certaines régions, aussi catastrophique que le premier. Et 400 répliques. Tous les jours, il y a une secousse, 4, 5, 5,5 sur l'échelle Richter. Donc c'est quand même... voilà. Et donc, si vous voulez, les gens attendaient ce tremblement de terre. Nous l'attendions tous. Nous avions fait des stages de formation, d'entraînement. Mais on l'attendait, on disait, qu'est-ce qui va se passer en ville? Et en fait, la plupart de la dévastation s'est faite dans les villages. Il y a des villages qui ont été rasés à 90%. Donc, du coup, les organisations internationales étaient un petit peu désorientées. Je ne sais pas par quel pied prendre tout ça. Le gouvernement népalais est désorienté en permanence. Et donc, nous sommes été actifs tout de suite. On avait déjà ce réseau sur le terrain. Et de ce fait, pour faire un résumé, dans les trois derniers mois, nous avons pu aider 210 000 personnes dans 540 villages. Et quand on dit aider, ce n'est pas seulement venir leur réconforter, leur donner quelques biscuits. Ça veut dire entre 15 jours et un mois de nourriture, par exemple 600 tonnes de riz, entre autres. C'est des soins médicaux, on a traité environ 9000 patients. C'est des tentes et des bâches, environ 7-8 000 tentes et bâches que nous avons distribuées. Et c'est prévenir aussi, empêcher le trafic humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont échappés des prisons, qui étaient justement là parce qu'ils avaient fait de trafic d'enfants, de femmes vers l'Inde, pour le travail forcé, pour la prostitution. Et toutes sortes de choses. Donc maintenant, nous en sommes arrivés à la fin de cette première étape d'urgence immédiate. Mais évidemment, les médias maintenant, les feux de l'actualité se sont portés sur d'autres drames et de tragédies, comme on l'a vu, on le voit tous les jours aujourd'hui avec les problèmes de ces immigrés. Et donc, de fait, les maisons ne sont pas reconstruites. Les gens n'ont pas refait leur vie en trois mois. En plus, il y a eu une mousson très, très lourde, avec des glissements de terrain et des inondations pour arranger tout ça. Donc de ce fait, pour les trois années à venir, avec la formidable solidarité citoyenne qui s'est manifestée, et donc Karuna maintenant est un petit peu le... Ben, nous sommes essayés de traduire cette solidarité dans l'action. Nous allons entreprendre des projets communautaires. À savoir, il y a à peu près 4000 écoles qui ont été endommagées, nous allons reconstruire le plus possible. Des projets d'agriculture pour la sécurité alimentaire, énergie solaire, donc éducation, continuer à enrayer le plus possible le trafic humain. Et donc pendant 2-3 ans, nous allons de nouveau focaliser intensément sur le Népal, outre les quelques 140 autres projets que nous avons au Tibet, en Inde, etc.
Comment est-ce qu'on peut vous aider?
Alors, les volontaires, ce n'est pas forcément traduit du fait que justement, c'est traduit de connaître la langue. En plus, il y a encore une influence assez forte des maoïstes qui ne veulent pas trop qu'on ait des volontaires parce qu'ils disent vous prenez le travail d'un local. La nourriture, c'est un problème. Les Nations Unies ont amené des tonnes de nourriture. La moitié était pourrie à cause du transport, à cause de je ne sais pas quoi. Donc, si vous voulez, tout est disponible à Katmandou parce qu'il y a des routes qui viennent de l'Inde, de la Chine. Donc, il y a autant de matériel qu'on veut. Donc, c'est vraiment une aide financière qui est la plus efficace.
Où est-ce qu'on s'adresse? Comment est-ce qu'on fait pratiquement?
Alors, carona-cgm.org. Et puis, nous avons notre ami ici, au fond, Laurence, qui a des brochures, qui vous fait signe et qui peut vous renseigner sur toutes les détails. Mais ce n'est pas compliqué, il y a notre site. Laurence vous fera un plaisir de vous éclairer plus avant.
Alors, continuons à parler d'altruisme.
Voilà.
Vous êtes l'homme des plaidoyers, vous avez écrit un plaidoyer pour le bonheur, pour l'altruisme sur les animaux.
Oui.
Et puis, le livre que j'ai reçu pour préparer cet entretien, c'est « Vers une société altruiste ». Et c'est un livre assez particulier, puisque c'est un ensemble de comptes rendus d'une conférence de 2 jours à Zurich, avec le Dalai Lama et plein de spécialistes que vous avez amenés. Et j'aurais voulu que vous nous parliez de l'altruisme en économie, parce que l'altruisme, c'est une belle chose, mais en économie, on n'y croit pas. Ça paraît un peu cucu de dire l'économie altruiste. Alors, il y a une nouvelle notion qui est « caring economics », parce qu'on ne sait pas comment le traduire en français, et vous croyez que c'est une piste?
Alors d'abord, c'est vrai, les économistes ne sont pas les seuls à ne pas avoir cru dans l'altruisme. Alors pourquoi 3 plaidoyers? C'est très dur de trouver un titre. Alors peut-être pour le bonheur, parce qu'il y avait des intellectuels parisiens qui trouvent que le bonheur, ce n'est pas intéressant du tout. Ils parlent de la corvée du bonheur. Plaidoyer pour l'altruisme, on s'est creusé la tête. Là, c'est plus correct parce que, si vous voulez, il y a quand même un mouvement, justement, sur lequel on peut s'interroger, qui est né un peu au XVIIIe siècle, au XVIIe avec Hobbes et d'autres philosophes qui ont dit « L'homme est fondamentalement égoïste, quoi qu'il arrive. » Et puis ça a surenchéri au fil du temps. Alors, dans l'économie, très précisément.
Alors vous le citez d'ailleurs, des auteurs qui disent le seul moteur de l'économie, c'est l'intérêt immédiat de chacun.
Ben, c'est pas seulement des auteurs, c'est la définition de l'homo economicus. L'homo economicus, normalement, est censé représenter l'être humain. Et c'est que tout le monde n'agirait en fin de compte que pour maximiser les intérêts et les préférences personnelles. Il y a un des fondateurs, bon, pour ceux qui connaissent l'économie, je ne suis pas un spécialiste, mais je l'ai dû l'étudier pour faire des chapitres de Plaidoyer pour l'altruisme, Francis Edgeworth, qui est un des fondateurs de l'économie moderne, au tournant du 20e, entre le 19e et le 20e siècle, disait « Il n'y a pas de place pour l'altruisme dans les systèmes économiques, très clairement. » Alors, paradoxalement, Adam Smith, qui est aussi un des piliers de l'économie moderne, avait aussi écrit un livre sur l'éthique et les sociétés plus harmonieuses, où il disait une société où il n'y aurait pas de solidarité s'écroulerait fondamentalement. Son livre sur la morale, etc., qui est beaucoup moins lu, ne va pas dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, pendant très longtemps, on a dit la fameuse main invisible, laisser l'intérêt personnel libre, donnez-lui libre cours et il y aura un équilibre qui sera profitable à tout le monde. Le problème, c'est que si c'est la main invisible d'un aveugle qui en plus est égoïste, alors évidemment, ça n'a rien de méprisant pour les malvoyants, mais je veux dire aveugle dans le sens de la sagesse et du discernement et de prendre en considération autrui, c'est mal parti. Mais heureusement, comme le disait Joseph Stiglitz, au grand économiste, la principale caractéristique de la main invisible, c'est qu'elle n'existe pas. Parce que ça n'a jamais marché vraiment, ce système. Donc en gros, si vous voulez, il y a 2 choses que la maximisation des intérêts personnels ne pourra jamais résoudre. Et ça, il y a un autre économiste qui s'appelle Dennis Snower, qui a fondé le Global Economic Symposium et qui est un des grands avocats du Caring Economics, a bien montré 2 choses que l'égoïsme pur ne pourra jamais résoudre. C'est la précarité au sein de la richesse. Vous n'avez aucun intérêt à remédier à la pauvreté dans un pays affluent Parce que ça ne maximise pas vos intérêts personnels. Vous n'avez pas intérêt à doubler le salaire de personnes qui font des t-shirts au Bangladesh pour 1 dollar, alors que vous voulez vendre 20 dollars par ici. Pourquoi ? Ça ne maximise pas vos intérêts personnels. Une chose. Deuxième chose, l'homo economicus ne peut pas résoudre le problème des biens communs. Les biens communs, qu'est-ce que c'est ? C'est pas seulement les jardins, les parcs, etc. C'est aussi l'ensemble de l'environnement. Ça ne maximise pas vos intérêts personnels maintenant que de vous occuper des changements climatiques dont les conséquences arriveront dans 20-30 ans. Si vous perdez 30% de la biodiversité de toutes les espèces animales en 2050, vous n'avez pas intérêt à maximiser vos intérêts personnels en faisant quelque chose pour ça. C'est aussi la démocratie. Il faut s'impliquer dans les pays totalitaires pour faire triompher la démocratie, mais c'est un coût, un risque, et ça ne maximise pas vos intérêts personnels immédiats. Donc il y a beaucoup de choses dans l'existence qui exigent qu'on sorte de cette logique de la maximisation des intérêts personnels. La recherche scientifique, enfin beaucoup d'autres choses. Donc de ce fait, traditionnellement, l'économie est dite suivre la voie de la raison, qui consisterait à maximiser vos intérêts personnels. Et ce que dit Denis Noer, et ce que je suis plein derrière lui, il faut aussi la voie du care, la voie de la sollicitude, la voie de la considération d'autrui pour que nous fassions face aux défis des temps modernes.
Et c'est cette ligne que vous défendez, mais d'une manière rationnelle, et pas uniquement en partant des bons sentiments.
Oui, parce que si vous voulez, j'avais écrit ce bouquin sur l'altruisme, comme ça, rien que des bons sentiments, ça aurait été facile de faire un petit opuscule de 100 pages, un peu comme ce très beau livre de Stéphane Eiffel, Indignez-vous, et faire appel à la conscience des gens. On m'aurait dit, il est bien gentil, moine bouddhiste, il descend de son ermitage, qu'il y retourne en gros. Non, mais c'est vrai. Et donc, je me suis dit, si on veut vraiment dire que c'est pas une sorte de naïveté totale, il faut étayer chaque argument par des recherches scientifiques sérieuses. D'où il y a 1600 références scientifiques, personne n'a besoin de lire, mais elles existent. Et alors, pourquoi ? Parce que c'est pas seulement l'économie. L'économie, si vous voulez, ça reflète le défi du court terme. Mais le grand défi de notre temps moderne, c'est de réconcilier les exigences de trois échelles de temps. Le court terme, qui est l'économie, c'est les cours de la bourse qui montent et qui descendent, personne ne comprend pourquoi, enfin, plus beaucoup. C'est les bilans de la fin du mois et de la fin de l'année. Hein. Bon, personne ne se préoccupe des bons du trésor qui vont être rendus 150 ans plus tard, ça n'intéresse pas, c'est pas l'économie. Vous avez aussi le moyen terme, c'est la qualité de vie. Comment est-ce qu'on sent la qualité de notre existence ? Après tout, si un pays est le plus riche et le plus puissant et tout le monde est malheureux, à quoi bon ? Donc, la qualité de vie, c'est la qualité de vie dans l'éducation, dans la famille, dans la société. C'est toutes sortes de choses qui font comment est-ce qu'on juge la qualité de notre existence. Et puis, il y a un nouveau défi auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on nous sommes devenus les acteurs principaux qui déterminent le sort des générations à venir. Donc le long terme, c'est le sort de l'environnement, de la planète, de la biosphère, de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 000 ans, il y avait 5 millions d'êtres humains sur Terre. Pas de problème. Maintenant, il y en a 7, il va bientôt avoir 10, mais ce n'est pas seulement le problème majeur, c'est qu'aussi les moyens d'agir sur la planète ont été multipliés par 100 et par 1000 avec la révolution industrielle, technologie, scientifique. Donc du coup, et en plus, ces personnes l'ont décidé individuellement, donc on ne se sent pas responsable, il y a une dilution de la responsabilité, puis ça se produit quand même relativement doucement, ce n'est pas un rhinocéros qui arrive en courant dans la salle, c'est quelque chose qui va se produire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, donc on se dit, on verra bien. Donc il y a un défi. Et alors juste pour... Excusez-moi, je sais, vous l'avez bien dit, j'ai du mal à m'arrêter. Mais il faut quand même finir l'argument, c'est ça qui est bien par rapport à la télévision et à la radio, on ne vous interrompt pas toutes les 30 secondes. Donc si vous voulez, quand les spécialistes de l'environnement parlent à des économistes ou parlent des acteurs sociaux, c'est un langage de schizophrène. Certains parlent de ce qui va se passer dans 60 ans, les économistes qui intéressent, c'est le bilan de la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous égoïstes et qu'ils ne pensent qu'à eux. A priori, on peut penser que tout le monde souhaite un monde meilleur. Pourquoi ne pas accorder le bénéfice du doute même aux économistes ? Mais ils ne peuvent pas parler le même langage. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un concept qui fournisse une plateforme de discussion commune pour tous les gens de bonne volonté qui souhaiteraient que ça serait quand même mieux qu'un meilleur monde. Donc quel concept autre que avoir davantage de considération pour autrui. Si vous avez davantage de considération pour autrui, vous allez aller précisément vers une caring economics. Si vous avez davantage de considération pour autrui, vous allez remédier aux inégalités, plus de justice sociale, question des immigrés. Et on voit bien le drame que c'est aujourd'hui. Mais attendez, 200 millions de réfugiés climatiques, c'est rien ce qu'on voit aujourd'hui. Même ces souffrances abominables qu'on voit tous les jours, ça va être rien à côté de 200 millions de réfugiés climatiques qui pourraient arriver d'ici 2050. Et si on a davantage de considération pour autrui, on ne peut pas saccager la planète qu'on va livrer à nos descendants. Et Groucho Marx, donc moi c'est mon marxiste favori, il a dit « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Donc évidemment, on voit bien que l'environnement, aussi complexe cette question soit-elle du point de vue politique, économique et scientifique, c'est en fin de compte une question d'altruisme ou d'égoïsme. Donc si vous voulez, ça devient un concept très pragmatique, le seul concept unificateur, et ce n'est pas du tout une noble utopie ou un luxe.
En même temps, c'est basé sur un bon sentiment.
Non, c'est basé sur la reconnaissance de l'interdépendance, que nous ne sommes pas des entités isolées. Comme disait Martin Luther King, ce n'est pas seulement des bons sentiments, c'est nous sommes arrivés dans des barques différentes et aujourd'hui, nous sommes tous sur le même bateau, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sur 50 000 petites barques.
Mais qu'est-ce que vous répondez à votre marxiste favori?
Lequel?
Groucho.
Lui, il ne pensait Groucho. Pas comme ça, mais à Stephen Forbes.
Non, mais à Groucho qui dit « Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi, les générations à venir ?» Après moi, le déluge, c'est un réflexe assez répandu.
Oui. Et alors, un grand milliardaire américain disait la même chose, sérieusement. On lui parlait de la montée des océans, indéniable, et on en voit déjà les effets. Et il disait, je trouve absurde de changer mon comportement maintenant pour quelque chose qui se produira dans 100 ans. Donc simplement, oui, on ne peut rien dire si la personne... Alors, c'est pour ça que si vous vous en fichez totalement... Après moi, le déluge, très bien. Mais est-ce qu'on peut... Il y a des choses, si vous voulez...
Ce qui m'intrigue, c'est la manière dont vous essayez d'atteindre les gens pour changer ce réflexe.
Alors, il y a des changements, ce qu'on appelle, qui est un grand concept qui m'a beaucoup apporté quand j'ai recherché ce livre, c'est l'idée de l'évolution des cultures. Comment des idées qui étaient moralement, ou pas moralement, enfin acceptables par toute la société, sont devenues inacceptables. Et je prends l'exemple de l'abolition de l'esclavage. Et ça, je le fais plus dans le livre suivant, « Plaider pour les animaux », à propos de ce changement qui va venir aussi, j'espère. Dans 1780 quelque chose, il y avait une dizaine de personnes en Angleterre qui ont dit « L'esclavage, ça ne va pas, c'est une abomination. »
Pour une raison morale.
Pour des raisons éthiques, oui. Ça ne va pas dans le concept de la civilisation. Il y a quand même les morales, ça a amené aux droits de l'homme, malgré tout. C'est pas juste des philosophes qui discutent dans leur salon. Donc, ils se sont dit, c'est pas acceptable. C'était des gens bien respectés en Angleterre, donc ils sont allés faire un débat au Parlement. Tout le monde a rigolé. On a dit, c'est absolument inconcevable. Économiquement, l'Empire britannique allait s'écrouler si on abolissait l'esclavage. Hors de question, ha ha ha. Cette idée a fait son chemin dans l'opinion 10 ans plus tard. L'esclavage était aboli. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui le pensent, mais personne ne va dire vraiment, prendre position publiquement en disant finalement, c'était pas si mal que ça. Économiquement, c'est assez pratique. Vous faites travailler 100 personnes pour le bien de 1000 personnes. C'est ce que disait Aristote. Hein, et c'était quand même pas... nous sommes des plus grands penseurs de l'humanité, mais simplement la culture était différente. Maintenant, on ne peut plus le dire. On ne peut pas dire, on va finalement... C'était pas terrible de donner le droit des votes aux femmes, on va revenir là-dessus. On va abolir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, c'est plus possible. Donc, il y a des moments où il y a des changements de culture. Donc l'idée, justement, pourquoi caring? Parce qu'en anglais, si vous voulez, c'est un mot plus acceptable pour des économistes que le mot compassion, altruisme. Ils vont vous dire, oui, bah, dans ma vie personnelle, je peux faire de la philanthropie, mais enfin, bon, la compassion, c'est pas ça qui règne dans l'économie. Il a raison. Tandis qu'en anglais, si vous dites à propos des inégalités, à propos de l'environnement, I don't care.
C'est la réalité.
Oui, mais c'est un langage qui marche plus.
Ça ne se dit pas.
Ça peut plus se dire. Et sauf Stephen Forbes qu'il disait pour le monter de l'océan. Mais en gros, c'est un langage qui passe plus. Donc il y a eu quand même un changement de culture. Donc là, ça devient acceptable par des grands économistes, à tel point qu'il y a eu deux tables rondes au Forum de Davos sur le Caring Economics. Et que des gens comme Stiglitz qui parlent des inégalités, pendant 2 ans de suite, ça a été un des thèmes, on a considéré que c'était un des défis principaux de notre époque. Un forum qui est consulté par des économistes et des financiers, et on le sait, et parfois on les critique, mais ça a été dit plusieurs fois que la question des inégalités, aussi bien au sein des pays riches qu'entre le Nord-Sud, etc., était un des défis majeurs du moment présent.
Mais le fait que les inégalités sont reconnues comme un défi majeur, ça n'est pas pour une raison de compassion ou une raison éthique, c'est parce que c'est un danger pour les sociétés. Oui, mais les tensions sont trop fortes.
Mais si vous voulez, en fait, qu'est-ce que c'est que l'altruisme finalement ? C'est d'arriver, c'est de faire de mettre sur la balance les conséquences en termes de bien-être et de souffrance. Donc, altruisme, ça veut dire, si je suis concerné, d'abord moi-même, je ne me réveille pas le matin en pensant puisse souffrir toute la journée. Donc déjà, ou toute ma vie. Hein. Bon. En gros, si c'était possible, je préférerais ne pas souffrir. Il y a quelques intellectuels qui disent non, la souffrance c'est bien, c'est plein de passion, ça vous fait bouger, c'est plein de couleurs, ça donne les couleurs à l'existence. Mais enfin, en gros, c'est quand même une minorité. Non, mais c'est vrai, il y en a quelques-uns qui disent ça. Ceci dit, j'accorde donc une certaine valeur à mon souhait de ne pas souffrir. Je suis concerné par cela. Bon, ensuite, vous regardez autour de vous. Je dis, mais pourquoi ? Je sais pas de compliqué de me rendre compte que vous non plus, vous n'avez pas envie de souffrir quand vous voyez le matin, puis vous non plus, puis personne. Alors, d'un côté, je me dis, oui, mais si je suis aussi concerné par mon sort, je peux quand même pas ne pas concerner du tout par le sort d'autrui. D'autant plus que nous sommes tellement intimement liés que mon bonheur et ma souffrance passent forcément au travers de ceux d'autrui. Et avec, il est construit ou détruit avec autrui. Donc finalement, l'idée de l'interdépendance, c'est pas seulement du tout bisous nounours et affectif et des bons sentiments, c'est quelque chose qui correspond à la réalité. Et d'ailleurs, on peut même dire que la poursuite d'un bonheur égoïste, ce qui pourrait sembler être justement beaucoup plus raisonnable, pas du tout bon sentiment, mais la réalité est pure et dure, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? D'abord parce que ça vous rend malheureux. Moi, mon mois du matin au soir, c'est pas du tout agréable. Vous venez extrêmement désagréable vis-à-vis de tout le monde. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que justement, ça se présuppose qu'on est tous des petites entités isolées, qu'on pourrait construire notre bonheur dans la petite bulle de l'ego, et que ça pourrait marcher comme ça. Mais ça marche pas parce que nous ne sommes pas des entités isolées. Donc c'est voué à l'échec. L'altruisme, pourquoi c'est pas simplement des bons sentiments ? D'abord parce que subjectivement, c'est finalement l'état mental qui apporte le plus de satisfaction. Les autres, évidemment, ils vont vous percevoir comme quelqu'un de bienfaisant, donc il fait bon vivre avec vous. Mais surtout, ça fonctionne parce que c'est basé sur la reconnaissance de l'interdépendance, que nous sommes tous dans le même bateau, que notre bonheur se fait avec celui des autres. Et donc, ça va devenir beaucoup plus fonctionnel. Donc, ça va marcher. C'est pas seulement du bisou nounours.
On a envie de vous croire.
Hugo disait, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.
Alors, une idée dont le temps est venu, c'est la protection des animaux. Le changement de relation, de notre conception de la relation avec les animaux, qui ne sont plus une ressource à exploiter, mais autre chose. Et qu'est-ce qu'ils sont ?
Alors, vous dites que c'est difficile de faire passer le concept de l'altruisme, alors celui-là, encore plus.
Oui, mais vous n'avez peur de rien, je le sais.
Non, mais on est un tout petit peu, juste au bord de l'avenir, des changements à venir. C'est moins intuitif parce que, voilà. Alors, pour vous faire un portrait des progrès de civilisation, très rapidement. Je crois qu'on a brûlé ici une dame, j'ai oublié son nom complet, mais ça s'appelait quelque chose Holding. La dernière sorcière en Suisse a été exécutée en 1825 ou 60. C'est pas longtemps, hein. Et en France, ils en ont brûlé une aussi au XIXe siècle. Voltaire s'insurgeait contre les supplices sur la place publique où à Toulouse, on avait mis quelqu'un sur une roue, on lui avait cassé les membres avec une masse et on l'avait mis à mort. En plus, il était innocent, par contre, par hasard. Donc, ça n'avait pas plu à Voltaire. Il s'était insurgé contre la torture. Mais on allait voir ça il y a 200 ans sur la place publique avec femmes et enfants comme on va voir des matchs de foot aujourd'hui. ça a quand même changé, n'est-ce pas? Bon, l'abolition de la torture, même s'il y en a encore beaucoup dans beaucoup de pays du monde, enfin, au moins, c'est illégal. on fait plus des choses comme ça, c'est inadmissible. Donc, il y a un progrès de civilisation, malgré tout, déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, mais, donc maintenant, la valeur de la vie humaine n'est plus négociable. On vend pas les gens, si, ça se fait encore, le trafic humain, mais disons, c'est inacceptable et inaccepté. Donc, elle est infinie, on ne peut pas dire... Une vie humaine vaut 10 000 euros ou 10 000 francs suisses, faisant ce que vous voulez. Donc, c'est un progrès immense de civilisation. Mais il y a malheureusement une incohérence éthique énorme, parce qu'autant la valeur de la vie humaine est quasiment infinie, autant celle des autres espèces qui, dans l'évolution d'un continuum sans discontinuité, est quasiment nulle éthiquement, sauf si elle a une valeur marchande. Ou sauf si c'est votre toutou que vous aimez bien et dont vous ne ferez pas un si bel soir au dîner. Non, mais c'est vrai. On mange, on aime les chiens, on mange les porcs et on se fêtit avec les vaches. On voit pourquoi, mais ce n'est pas pareil. Bon. Alors, on mange les escargots, mais on ne mange pas les limaces. Alors, on ne mange pas les SDF, quoi, en gros. Elle n'a pas de maison, donc... Non, mais c'est comme ça. Donc, c'est complètement illogique. Il y a une incohérence éthique énorme. Et on ne veut pas voir. Donc, si vous voulez, je pense que dans la logique de ce progrès de civilisation qui est indéniable, tout ce qu'on voit, ce qui s'est passé au cours de 200-300 ans, la prochaine étape, c'est de se dire, ils ressentent tous la souffrance, l'intelligence animale existe, il y a un continuum ininterrompu au fil des différentes espèces. Ça serait peut-être bien qu'on change un petit peu. C'est pas facile, parce que là, ça fait venir à la surface... si on commence à dire, ils ressentent les mêmes choses que nous, ils ont des émotions, du coup, c'est plus difficile de les trucider pour les manger, quoi, en gros. Et ce Georges Bernard Shaw, il disait, les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis. Bon, mais ça, c'est plus difficile. Et alors, on vous sort plein d'arguments, alors j'en ai entendu toutes les couleurs, j'aime vous dire. Alors, celui que je préfère, c'est, encore les intellectuels parisiens, excusez-moi s'il y en a quelques-uns ici, ils m'ont dit, alors souvent, dans des émissions, « Ah, mais alors ça a l'air de l'argument de choc, l'indignation, mais comment osez-vous nous parler de vous préoccuper des animaux alors qu'il y a la Syrie, alors qu'il y a Isis, alors qu'il y a le Soudan? Oh, mais c'est indécent !» J'ai entendu ça deux, trois fois, hein, sur ce ton-là. Alors, ça peut paraître, effectivement, « Oh, je vais m'occuper des animaux et je laisse tomber la Syrie. » Mais c'est ça, c'est un sophisme complet. Et Luc Ferry est venu à mon secours, très gentiment, en disant, je vois pas en quoi le fait de tuer 60 milliards d'animaux terrestres par an et 1000 milliards d'animaux marins améliore de quelque façon le sort de la Syrie et les droits de l'homme en Chine. Et d'arrêter justement de faire ça, en quoi est-ce que ça aide la Syrie? Ça n'a rien à voir. Et une des questions que j'aurais dû poser, mais j'ai pas toujours l'esprit de la répartie assez rapide, c'est, vous faites du jardinage de temps en temps. Vous allez à la plage pendant les vacances, vous écoutez de la musique classique, et pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de la Syrie, on ne vous traite pas de personne abominable. Et brusquement, parce qu'on s'occupe un tant soit peu des animaux, on devient une personne... Et dernier argument, c'est comme si c'était un gâteau au chocolat dont on avait 10 parts, soit vous nourrissez vos enfants, soit vous donnez ça à un crocodile. Ça n'a rien à voir. C'est une chose, c'est une attitude qualitative, c'est une attitude... Le soleil brille aussi bien sur tout le monde et pas seulement sur 5 personnes. Donc en fait, l'argument auquel il m'est semblé, c'est que si on avait aussi de la bienveillance pour les animaux, on aurait en fait une bienveillance de meilleure qualité également pour les humains. Et là, la science est de nouveau venue à mon secours. On s'est aperçu, en mettant des gens dans des IRM, en leur montrant des images de souffrance, qu'en gros, les gens qui avaient cette vision qu'il fallait étendre la bienveillance aussi aux autres espèces, éprouvaient davantage... de réponses affectives vis-à-vis de la souffrance des êtres humains que ceux, justement, qui disaient « ça n'a aucun intérêt », etc. Donc, si vous voulez, ça montre une bienveillance de meilleure qualité. Et Lamartine le disait, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux, on a un cœur, on n'en a pas.
Vous êtes un moine scientifique et vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe dans le cerveau. Vous avez fait beaucoup d'expériences, vous-même, vous êtes soumis à des expériences. Est-ce que c'est une manière... que vous jugez plus efficace d'atteindre le public ? D'où vient cette méthode que vous avez ?
C'est un ensemble, une démarche qui s'inscrit dans presque une trentaine d'années de cette collaboration. C'était effectivement en grande partie inspiré par le Dalai Lama, qui lui a toujours eu un esprit scientifique. Quand il était tout jeune, il avait un télescope et il avait vu qu'il y avait des ombres sur la Lune. Dans le bouddhisme classique, à la cosmologie bouddhiste, qui n'est d'ailleurs pas bouddhiste parce qu'elle a été héritée de l'Inde ancienne, on dit que la Lune est faite de cristal d'eau et qu'elle brille de son propre feu. Alors il a dit à son tuteur, mais c'est pas possible, il y a des ombres. Donc ça peut pas être sa propre lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Le tuteur a dit, mais c'est pas ça du tout, regarde les textes. Donc il avait c'est ce qu'avait trouvé, je ne sais pas si c'est Galilée ou Copernic, qui avait vu les cratères de la Lune et qui s'était dit, donc elle est éclairée par le Soleil. Donc il a toujours eu ce goût pour la science, donc quand il est venu en exil, il a voulu rencontrer des spécialistes de la physique quantique, il a rencontré Bohm, plein de gens intéressants. Et puis après, il a rencontré Francisco Varela, qui est un des grands neuroscientifiques chiliens, mais qui a travaillé à Harvard et en France. Et donc, sont nées des rencontres entre des scientifiques et le Dalai Lama, au début pour lui faire les meilleurs professeurs de sciences possibles, mais en fait, c'est avéré que les discussions étaient passionnantes réciproquement. Donc, il y a un institut, l'Institut Mind and Life, dont je fais partie depuis 20 ans, qui existe. Et à un moment donné, dans une des rencontres en l'an 2000, où le thème était les émotions destructrices, qui a donné d'ailleurs un livre de Daniel Goleman, et il y avait des gens, des spécialistes des émotions, comme Paul Ekman et bien d'autres. Au milieu de la semaine, ça dure 5 jours typiquement, le Dalai Lama a dit, bon, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut contribuer pour la société ? Et donc on s'est réunis, on a dit, si on faisait un programme de recherche sérieux sur les effets de l'entraînement de l'esprit, de la méditation, sur la physiologie, sur le cerveau, de façon purement séculière évidemment, ça pourrait être intéressant pour l'éducation, pour l'attention, pour l'intelligence émotionnelle. Donc ce programme s'est développé considérablement, et maintenant on a bien montré que non seulement des méditants qui ont fait 60 000 heures de méditation, mais des personnes qui en ont fait... un mois, 20 minutes par jour, vous avez déjà des changements fonctionnels et même structurels dans le cerveau. Ça a donné lieu à des programmes, par exemple de curriculum pour les enfants de classe maternelle. Aux États-Unis, il y a plusieurs études qui sont en train d'être faites, de 4-5 ans, sur justement cultiver la bienveillance, l'attention et l'intelligence émotionnelle, qui ont eu des résultats très intéressants. Donc vous voyez, si vous voulez, c'est une forme de service à la société pour que ces connaissances deviennent utiles.
Vous visez toujours l'utilité tout en étant un grand méditant.
L'utilité, c'est pas simplement comment dire le rendement à tout prix, mais c'est l'expression, si vous voulez, la sagesse sans compassion, il y a quelque chose qui manque. On dit que c'est la sagesse et la compassion sont comme les deux ailes d'un oiseau. On peut pas voler avec une seule aile. C'est l'expression naturelle d'une certaine compréhension des choses. Parce que si vous voyez l'être qui souffre par ignorance ou par confusion, ou pour chercher le bonheur où il ne se trouve pas, si vous avez un peu d'altruisme, vous dites, mais non, c'est pas par là. Si vous avez quelqu'un qui est tombé à l'eau, et il peut aller vers une bouée ou vers une petite île et puis il nage dans la direction opposée, vous dites, mais non, c'est pas là. Il faut tourner de l'autre côté, vous pouvez y arriver, vous pouvez être sauvé. Donc voilà, on n'est pas là à essayer de sauver le monde, mais malgré tout, à discerner les causes du bien-être et de la souffrance et à essayer d'éclairer ces mécanismes. Donc c'est forcément pragmatique, parce que si on ne veut pas souffrir, qu'est-ce qu'on fait?
Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, donc on va peut-être commencer à prendre les questions. Qui peut passer le micro? Voyons, c'est... Qui veut poser la première? Monsieur... Lève-toi et pose ta question.
On t'entend pas.
Parle fort.
Ah, c'est mieux, oui. Merci pour cette conférence très intéressante. Vous parliez du bonheur avant, et on a des cartes, par exemple, de météo qui montrent l'évolution des températures dans le monde au cours des siècles ou au même moment. Si on arrivait à mesurer le bonheur, ou la qualité de vie, ou etc. Est-ce que c'est en Europe et aux États-Unis, quel serait le meilleur? Est-ce que c'est actuellement, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans? Et cette notion d'altruisme vis-à-vis d'autres, des autres, est-ce qu'elle elle est aussi évolutive en fonction du temps? Est-ce que, à la limite, les hommes des cavernes étaient plus altruistes que nous? Est-ce qu'en Asie, on est plus altruiste qu'en Amérique du Sud, etc.? Comment est-ce qu'on se balade dans ces notions?
Vaste question.
Et j'en rajoute.
Non, je t'ai plus.
Vous pouvez parler.
Non,
arrête-toi. Une question après l'autre.
Alors, on n'a pas mesuré le bonheur avant il y a une cinquantaine d'années. Alors, c'est très complexe parce que ça peut être fait de façon extrêmement assez superficielle. Hein, les premiers questionnaires qu'on posait aux populations, c'était: est-ce que vous êtes très heureux, moyennement, pas du tout, extrêmement malheureux? Alors évidemment, ça dépend de quoi? Ça dépend d'événements immédiats, ça dépend de la qualité de vie. Est-ce qu'on parle des conditions d'extérieur de vie, hein, on ne peut pas nourrir ses enfants, on est dans une sorte de conflit, ou est-ce qu'on parle de notre esprit qui peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi? Donc, si vous voulez, c'était un peu trop rudimentaire. Donc, ces questionnaires se sont raffinés au fil du temps. Il y en a plusieurs. Il y a pas mal d'instituts qui étudient ça. Et généralement, il y a des résultats assez différents selon le type de questionnaire. Des fois, c'est la Suisse qui est numéro un. En général, c'est les pays scandinaves. Mais certains questionnaires, c'était le Nigeria. On va aller comprendre pourquoi. Mais en fait, ils évaluaient plus la qualité du lien social. Et en Nigeria, les gens, il y a un très fort lien social. Les gens sont très solidaires. Ils vivent en famille, etc. Donc, ça dépend beaucoup des critères. Le Bhoutan, curieusement, avec des scientifiques, a fait un questionnaire très, très, sophistiqué.
Sur le bonheur national brut.
Oui, mais pour justement l'évaluer, ils ne prétendent pas qu'ils sont les plus heureux du monde, hein, jamais. Ça, ils disent qu'ils veulent mettre le bien-être au plan quinquennal, ça devient la priorité. Ça, c'est autre chose, ça ne veut pas dire qu'on est déjà heureux. Ceci dit, ils ont fait des questionnaires assez intéressants, d'après mes amis scientifiques. Ils vous demandent, par exemple, quelle est la qualité de votre sommeil? Combien de fois vous êtes mis en colère ou avez-vous jaloux pendant les 15 derniers jours? Est-ce que vous pratiquez la méditation, etc., etc. Donc là, ça quand même donne plus une idée de la qualité du vécu. Donc ça, c'est encore une science qui est assez nouvelle pour l'évaluation du bonheur de la population. Maintenant, comment éviter la souffrance et trouver le bonheur? Ça ne remonte pas au XXe siècle. À toutes les grandes civilisations, traditions spirituelles, la Grèce, c'est la philosophie, c'était aussi un art de vivre. Hein, mon père disait, la question qu'il posait, c'était comment mener mon existence, comment gouverner la cité et que puis-je connaître? Donc malgré tout, comment mener notre existence, c'était une question primordiale. Le bouddhisme, par exemple, premier sermon du Bouddha, reconnaître l'existence de la souffrance, pas fermer les yeux ou faire l'autruche. Quelles sont les causes de la souffrance? Peut-on y remédier? Et si oui, comment? Donc c'est très comme que se ferait un médecin devant la souffrance. Donc ça, ceci dit, est-ce qu'avoir que les gens sont plus heureux maintenant qu'il y a trois siècles? On n'en sait pas grand-chose, ça dépend de tout le monde. L'altruisme, alors, bon, dans les différents pays du monde, on sait mesurer non pas l'altruisme, mais l'individualisme par rapport à une vision plus collectiviste. Et on sait qu'en Asie, en Amérique latine, même chez les jeunes enfants, il y a une approche beaucoup plus collectiviste et moins individualiste de la société, et qu'en général, ça apporte davantage de bien-être. Le comble de l'individualisme le plus fort est trouvé surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, où l'individualisme est prôné comme une vertu, et même l'égoïsme. Il y a une philosophe qui est quasiment inconnue en Occident, mais qui a été très influente aux États-Unis, qui influence tous les partis conservateurs, qui s'appelle Ayn Rand, qui a écrit un livre sur les vertus de l'égoïsme. Elle a été jusqu'à dire que l'altruisme était immoral. Vous voyez, c'est un extrême. Mais là, ils le prennent au sérieux. Donc, c'est plus grave. Donc, si vous voulez, c'est un problème très vaste. Alors, maintenant, la chose intéressante, enfin, votre question est très intéressante, mais particulièrement intéressante, c'est: est-ce que ça peut évoluer? Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'il y a deux choses pour faire arriver à une culture ou une société plus solidaire, plus altruiste, plus coopérante. Il faut d'une part un changement individuel, d'autre part un changement sociétal, un changement de culture. Le changement individuel, on sait qu'il peut se produire. C'était toutes les traditions de transformation de soi, ça c'est les voies spirituelles, l'humanisme, la philosophie. Devenir un meilleur être humain, ça a été quand même l'idéal de la plupart des philosophies qui ont un sens. Aujourd'hui, on sait, il y a aussi des pratiques contemplatives qui visent précisément à augmenter l'altruisme, à diminuer l'animosité, la jalousie, etc. Le bouddhisme, c'est un peu sa spécialité que de travailler sur les émotions destructrices pour les éliminer et de favoriser les émotions constructives. Mais ce que la science aujourd'hui a montré, c'est qu'effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un noble souhait d'être assis sous un manguier en vous disant « je veux devenir un meilleur être humain », mais si vous faites ça tous les jours pendant un certain temps, votre cerveau change, votre système immunitaire change, l'expression de vos gènes va changer. Donc il y a la neuroplasticité et l'épigénétique. Donc l'individu peut changer. Si vous voulez plus de détails...
Non, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à faire les deux.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que vous ne restez pas sous votre arbre.
Voilà, c'est exactement. Deuxièmement... L'évolution des cultures, ça c'est une grande découverte que j'ai faite en faisant les recherches sur ce livre, parce que j'étais embêté, parce que mon ami André Comte-Sponville me disait « c'est très joli tout ça, tes méditations, mais ça va mener de nulle part, parce qu'il faut changer les institutions, la méditation, c'est sympa, mais ça mène nulle part ». J'étais un peu embêté, je ne sais pas trop quoi dire, il parle très très bien, c'est quelqu'un... Non mais c'est vrai, il est très convaincant. Et puis, je me suis rendu compte que ce qu'il voulait dire, il dit « je ne suis pas meilleur qu'Aristote, Aristote contre l'esclavage, on n'est plus contre l'esclavage, ça a changé, mais les hommes sont les mêmes. » Puis en réfléchissant après, évidemment, toujours trop tard, j'ai dit « mais nous avons les mêmes gènes, mais s'exprime-t-il ou non, c'est l'épigénétique ? » Énorme différence, vous avez 100 ampoules sur ce bateau, elles sont toutes éteintes, sauf quelques-unes là-bas. S'ils sont toutes allumées, ce n'est pas pareil. Donc si les gènes s'expriment, ce n'est pas pareil que s'ils ne s'expriment pas. Donc, on peut changer considérablement. L'évolution des cultures, c'est passionnant parce que c'est un modèle darwinien, mais qui va plus vite que les gènes. C'est-à-dire que pour les gènes, un gène d'altruisme arrive dans l'humanité, il faudrait 50 000 ans, ce sera beaucoup trop tard pour l'environnement. Par contre, les cultures changent, notre attitude vis-à-vis de l'esclavage, vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis des femmes, des enfants, ça a considérablement changé. Et donc là, on voit un point d'articulation entre le changement individuel et le changement des cultures. Et pour vous donner un dernier point, il y a des modèles qui ont été faits qui montrent très bien que ce qu'il y a de bien avec les altruistes, c'est qu'ils aiment bien travailler ensemble. C'est normal. Donc, si vous mettez un contre un, toujours un altruiste, un égoïste. Un altruiste et un égoïste. Les altruistes vont être éradiqués de la planète. Parce que ceux qui ont sans pitié vont évidemment les éliminer. Mais le coup de baguette magique, si vous avez un groupe d'altruistes qui coopèrent, ils ont un avantage de groupe sélectif important contre un groupe ou une collection d'égoïstes qui se tirent dans les pattes du matin au soir. Donc les modèles ont montré que peu à peu, on peut effectivement arriver vers une société plus fondée sur la coopération. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Novak à Harvard, qui a écrit un livre qui s'appelle « Super coopérateur », qui montre qu'il faut maintenant passer à un niveau supérieur de coopération et que c'est possible. Donc ça, c'est, je crois, la bonne nouvelle. Et non seulement ça... Mais c'est totalement nécessaire. Et si on parle de qualité qui émerge pour la survie, il est évident que pour faire face aux défis globaux, le trait qui devrait être sélectionné par l'évolution, c'est plus un trait de coopération que de compétition. On n'a pas intérêt dans une ville à être tous les uns contre les autres. Ça ne marche pas, et sur la planète non plus.
Deuxième question. Monsieur.
Si on admettait que toute la Terre, tous les habitants de la Terre seraient altruistes, pensez-vous qu'il y aurait suffisamment de place pour tout le monde ? Parce que nous sommes tellement nombreux que c'est peut-être là le véritable problème de la Terre et de la plupart des hommes. Et peut-être, sans être pessimiste, disons, cette inéluctable voie vers la destruction. Et la destruction, ça serait peut-être un bienfait pour la Terre, pour les autres animaux, pour les personnes qui resteraient sur Terre.
Vous savez, la destruction, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas seulement une question d'altruisme et d'égoïsme. On est quand même, rien que de voir ce qui s'est passé au Népal et ailleurs, on se sent quand même extrêmement petit vis-à-vis des forces de la nature. Ce qu'on peut dire, c'est que le problème de la population, c'est certes un problème, puisqu'il y avait seulement 5 millions d'êtres humains il y a 12 000 ans, mais un progrès, justement, de réduire les inégalités serait sans doute une des meilleures façons de stabiliser la population à 9 ou 10 milliards. Et on peut, en utilisant avec judicieusement les ressources de meilleure façon, c'est-à-dire pas en les exploitant comme s'il n'y avait pas de lendemain, ça serait possible de nourrir 10 milliards de personnes. On voit que ça se fait dans, justement, quand on prend soin de remédier aux inégalités. Je vais vous donner un exemple avec le Bangladesh. Le taux de natalité au Bangladesh est environ de, entre 6 et 7 il y a 50 ans. Et c'est pareil au Tibet. Au Tibet, en moyenne, il y a 7-8 enfants par famille parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a 2 ou 3 qui meurent parmi ces 7 enfants. Moi, j'ai interviewé 200 mères parce que nous travaillons au Tibet. Il y en avait 80% qui avaient perdu un enfant dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui vient de très commun. Depuis qu'il y a eu toutes ces aides à la maternité, aides aux femmes, non seulement Mohamed Younous, mais aussi BRAC, la plus grande ONG au monde, qui a aidé des 60 millions de femmes au Bangladesh. Donc à leur donner un métier, à faire une petite épargne, à pouvoir mettre leurs enfants à l'école, donc plus de sécurité. Ils n'ont pas besoin d'avoir 7 enfants parce qu'ils savent qu'il y en aura, qu'ils vont mieux survivre pour s'occuper d'eux quand ils seront âgés. La natalité est tombée à 3. Donc si vous voulez, à chaque fois que les pays ont un progrès où les conditions de vie sont plus décentes, la natalité baisse. Donc d'où l'idée que si on peut remédier à la pauvreté, il y a encore 1,5 milliard de personnes sous seuil de la pauvreté dans le monde, et aux inégalités, ce qui est un des grands défis, tout le monde prédit en gros que ça va se stabiliser. Donc c'est un facteur important, mais ce n'est pas le facteur majeur. Une dernière chose, quand vous parlez à quelqu'un qui vit en Afrique et qui est un peu au courant de ce qui se passe, de la surpopulation, ils vous disent, mais arrêtez de nous dire ça, parce que qu'est-ce qui cause les réchauffements climatiques? L'Amérique du Nord et l'Europe émettent 200 fois plus de CO2 que la Zambie. Le Qatar en émet 2000 fois plus que l'Afghanistan. Donc ceux qui causent les souffrances, dont maintenant les famines qui causent les immigrations et tout ça, c'est les pays eux-mêmes, c'est les pays développés qui causent les bouleversements climatiques, dont sont victimes les habitants des pays les plus pauvres. Donc il y a une grande injustice dans aussi l'impact des changements climatiques. Et puisqu'on parlait de la viande, une autre injustice sociale, c'est pas seulement pour les animaux, c'est qu'il y a 750 millions de tonnes de grains d'Amérique latine et d'Afrique qui sont exportés vers l'Amérique du Nord et l'Europe pour faire de la viande, qui pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes, qui est exactement le nombre de personnes sous le seuil de la pauvreté. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus à essayer de rétablir un équilibre dans le monde qu'à essayer de se dire, bon, ben, s'il y avait un tsunami suffisamment vaste pour éradiquer la moitié de la planète, on pourrait repartir à zéro. Il y a des moyens de le faire de façon beaucoup plus humaine, et je ne pense pas que l'altruisme soit un obstacle, au contraire.
En attendant la question suivante qui est là-bas au fond, juste une notion par rapport à l'altruisme. Dans votre livre, dans ce livre, vous faites une distinction claire entre empathie et altruisme. Et ça m'est paru extrêmement intéressant.
Oui, ça c'est passionnant.
Parce que l'empathie amène au burn-out et l'altruisme à l'énergie.
Alors justement, on parle beaucoup d'empathie, et c'est devenu presque un mot à la mode pour remplacer l'altruisme. Mais c'est très 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 différent. Alors, l'empathie, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. Et il y a deux types d'empathie. L'empathie émotionnelle. Hein, vous avez un sourire extrêmement chaleureux et sympathique. Rien qu'en vous regardant, ça, j'ai envie de sourire. Je rentre dans une pièce où tout le monde est en train de rigoler. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais qu'est-ce que vous dites là? Je suis déjà content. Ça, c'est l'empathie. Bon, c'est une forme d'empathie. Mais l'empathie qui est plus difficile à gérer, c'est celle d'être confronté encore et encore à la souffrance d'autrui.
Vous parlez des infirmières en particulier.
Infirmières, mais aussi, moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu social. Notamment, j'ai une amie à San Francisco qui travaille avec les gens qui sont dans la rue. Et c'est jour après jour après jour, vous souffrez de la souffrance des autres, parce que c'est ça que l'empathie fait. Soit vous êtes joyeux parce que les autres sont joyeux, soit vous souffrez parce qu'ils souffrent. Et ce qu'a montré mon amie Tania Singer, qui a dirigé avec moi l'édition de ce livre, c'est que vous souffrez vraiment. Vous regardez dans le cerveau, tous les réseaux de la souffrance sont activés comme si vous souffriez. Donc c'est pas juste une sorte de souffrance un peu intellectuelle et lointaine, vous souffrez. Donc un patient, un malade, en gros, il guérit ou il meurt. C'est très rare que quelqu'un souffre intensément pendant 20 ans. Il y a des cas, mais c'est dramatique, mais c'est quand même l'exception. Donc les patients se succèdent, ils guérissent ou ils meurent, mais c'est jamais les mêmes. Mais si jour après jour, après jour, après jour, après jour, vous souffrez de la souffrance des autres, c'est trop. Donc si vous n'avez que ça à votre disposition, la résonance empathique, vous arrivez au burn-out, c'est-à-dire la détresse empathique, l'épuisement émotionnel. Et ce qu'on a montré avec les recherches qu'on a faites avec Tania Singer, je vous raconte toute l'histoire, mais on a eu une sorte d'illumination alors que j'étais moi-même dans le scanner, elle me demandait de méditer sur la compassion, et puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce qu'on voit avec l'empathie dans le cerveau. J'ai dit, je pratique sur la compassion. Elle m'a dit, sors de là, il faut qu'on discute. Donc on a discuté, et on s'est aperçu que c'était effectivement très différent. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux faire que de l'empathie? Alors pendant une heure, j'ai médité sur uniquement raisonner avec la souffrance. Je pensais justement à des victimes d'un tremblement de terre au Tibet en 2010, ces gens qui sont pris sous les décombres, des enfants, etc. Et donc, au bout d'une heure, j'avais un burn-out total. Je me disais, laisse la compassion de côté, parle pas d'altruisme, pense qu'à la souffrance. J'avais un burn-out total en une heure. Et à la fin, elle m'a dit, alors maintenant, on fait une pause pour le déjeuner, ou est-ce que tu veux passer à la méditation sur l'amour altruiste? J'ai dit, mais s'il te plaît, là, je suis au bout du rouleau, là. Et quand je suis passé à la méditation sur l'amour altruiste, c'était complètement différent. C'était un monde entier, un monde de différence.
D'autres zones de votre cerveau s'illuminaient.
Alors, donc, moi, subjectivement, c'était comme s'il y avait un océan d'amour qui allait vers ces personnes qui souffraient, donc c'est quand même subjectif. Mais dans le cerveau, c'était comme si vous allumiez toutes les lumières qui étaient éteintes et éteignez toutes celles qui sont allumées. Donc, c'était plus la zone justement qui mène à la détresse, qui mène à la... Il y a une zone qui s'appelle l'amygdale, qui est la zone à la fois de la peur, de la colère, du dégoût, enfin, c'est des émotions négatives. La zone de l'affiliation, de l'amour maternel et l'amour parental. La zone de la gratification. Donc, c'est une émotion positive. Ça ne veut pas dire que vous voyez la souffrance comme quelque chose, oh, c'est pas si mal que ça. Simplement, vous l'embrassez avec une attitude de courage, de force d'âme, de chaleur humaine, qui, au lieu de vous miner, va renforcer votre courage. Donc, ce qu'on a pu montrer, elle a un projet qui s'appelle Ressources, parce que c'est une des abréviations. Elle a étudié avec 300 sujets sur un an que tous ceux qui font que de l'empathie vont au burn-out, ceux qui utilisent l'amour altruiste évitent le burn-out, ça devient un antidote, et donc il y aura sans doute des répercussions importantes dans le monde hospitalier. Elle travaille aussi avec le président allemand sur un conseiller scientifique. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour avoir justement une application pratique extraordinaire dans le monde du soin et de tous ceux qui ont affaire à des gens qui souffrent. Donc en gros, l'empathie laissée elle-même va droit au burn-out. Il faut la mettre dans la sphère beaucoup plus vaste de l'amour altruiste.
Merci. La question. Où est le micro? Voilà.
Oui. Alors, donc, vous avez parlé évidemment des ressources naturelles et puis évidemment des pauvres, des riches. Donc, est-ce que vous pensez que l'utilisation des ressources naturelles passe par l'augmentation du niveau de vie des pauvres ou la diminution du niveau de vie des riches? Une question complexe, mais bon.
C'est pas une question de niveau de vie, c'est une question d'équilibre. Si vous avez 200 fois plus d'émissions de CO2 en Amérique du Nord qu'en Zambie, c'est pas normal. C'est pas simplement qu'il faut leur couper toutes leurs ressources, c'est qu'il faut couper le superflu. Et le superflu, c'est d'avoir en gros presque une voiture par habitant aux États-Unis. Enfin, c'est deux voitures pour trois personnes. Enfin, c'est un excès. Beaucoup de la crise, c'est une crise du superflu. Et simplement rééquilibrer les besoins de tout un chacun. Donc, hier, vous avez entendu peut-être Pierre Rabhi, il parle de la sobriété heureuse. Et alors, les gens s'imaginent que si on parle de simplicité heureuse, de simplicité volontaire, oulala, on ne va plus pouvoir manger de glace à la fraise, on va retourner dans les bois, plus de chauffage l'hiver. Mais non, mais ce n'est pas ça. Et d'abord, quand on parle de sobriété heureuse, c'est parce que les études psychologiques ont montré qu'effectivement, les gens sont plus contents quand ils ne sont pas uniquement préoccupés par toujours plus de ceci, de cela. Tim Kasser, un très bon ami, qui a étudié ça, il a montré que les gens qui sont le plus matérialistes et portés à la consommation, il a étudié 20 000 personnes, par rapport à ceux qui sont le moins. Ceux qui, dès qu'ils vont mal, ils vont acheter plein de trucs au supermarché. Tout ce qu'il faut, c'est le dernier modèle de voiture, les derniers vêtements à la mode. Ils sont moins heureux. Ils cherchent des bonheurs hédoniques et ils ne trouvent pas vraiment le bonheur. Ils sont en moins bonne santé parce qu'ils font des excès en tout genre. Ils ont des relations sociales, mais moins de véritables amis. Ils sont plus obsédés par la mort, paraît-il. En gros, il dit, je ne suis pas un moraliste, mais si vous voulez être heureux, avoir des amis, être en bonne santé et vous occuper de problèmes globaux aussi, parce qu'ils sont moins empathiques, eh bien, il faut savoir que il faut plus accorder d'importance aux valeurs intrinsèques, c'est-à-dire les rapports humains, savoir jouir du moment présent. Vaut mieux être regarder ce paysage quand tu es en train de faire un jeu vidéo ou des trucs comme ça. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'on peut effectivement non pas se priver mais retrouver un meilleur équilibre dans nos besoins qui sont souvent inutiles. Et aussi, c'est pour, ça va de pair avec l'altruisme, parce que davantage de considération pour ceux qui souffrent de ces excès. Donc nous n'avons pas trois planètes, et au rythme où on va, on en aurait besoin de trois en 2050, si on continue à faire comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Et si tout le monde devait vivre comme les États-Unis, six planètes. Madame, le micro, et puis ensuite devant.
Bonjour. Je pense que nous aimerions avoir des nouvelles du Dalai Lama, son état de santé, comment il va.
Écoutez, là, je n'ai pas eu l'occasion, la grande fortune de le voir depuis quelques mois, mais je vais avoir la chance de le voir à Londres bientôt. Et il va très très bien. Il a 80 ans.
Quelqu'un d'autre demandait la parole, tout près d'ici? Non. Non, il n'y a plus de demande. Ah, si.
Une question qui est au-delà ou en plus de tout ce que vous nous avez dit sur l'altruisme, l'évolution, etc. Nos sociétés, l'esclavage a été supprimé, etc. Aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est le développement de sociétés, les islamistes par exemple, dont le but est d'encourager les jeunes à être violents, en leur promettant une nouvelle vie, etc., etc. Et ce phénomène, il se développe de plus en plus hein, en Syrie, dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce phénomène qui est encore au-delà des autres éléments que vous nous avez expliqués ?
Ce n'est pas fondamentalement différent. Si vous voulez, personne ne naît ou à l'âge de 4-5 ans se dit « quand je serai grand, je vais couper des têtes, je vais tuer tout le monde ». Il y a un problème de culture, d'éducation, d'opportunités, etc. Je vais revenir un petit peu en arrière, au moment de la première guerre d'Afghanistan avec les Russes et les Américains. Une fois qu'avec l'aide des Américains, les Russes ont été éjectés, j'ai entendu celui qui était à l'époque secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, Brzezinski, dire à la radio... nous allons maintenant reconstruire vos écoles, vos hôpitaux et vos mosquées, etc., etc. Rien du tout. Ils ont laissé les armes, ils sont partis. Et donc 20 ans plus tard, enfin ou 15 ans, le ressentiment d'avoir été abandonné, l'éducation n'a pas été favorisée, arrivent les talibans, une bande de jeunes, ah, on va vous donner un autre idéal, tout le monde suit. Ils font venir Ben Laden d'Arabie Saoudite. Et il dit, bon, on a été abandonnés, ils ne nous ont pas aidés. Donc, si vous voulez, alors 11 septembre, le monde entier à feu et à sang, on fait une nouvelle guerre, etc. Évidemment, quand la forêt est en feu, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut appeler les pompiers. Mais tous les symptômes, tout ce qui fait que les choses viennent, personne, encore une fois, même en Afghanistan, ils ne sont pas, depuis des générations, se dit... Dès qu'ils naissent, on va aller détruire l'Amérique ou les non-croyants, etc. C'est un phénomène qui naît de toutes sortes de facteurs qu'on a si longtemps négligés. Et donc, évidemment, quand il y a, encore une fois, la forêt est en feu, il faut prendre les mesures nécessaires, on ne peut pas faire autrement. Mais si à chaque fois, on oublie comment essayer de promouvoir l'éducation, d'ouvrir la société à l'avantage d'égalité, au respect des femmes, etc., toutes les études sur la diminution de la violence. J'ai consacré un chapitre dans mon bouquin qui est basé sur le travail de Steven Pinker, qui lui aussi a fait un livre de 800 pages uniquement sur ça. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont contribué. D'abord, il y a aussi, il faut vous dire, que globalement, contrairement à toutes les idées reçues, la violence n'a cessé de diminuer depuis 5 siècles sur Terre. En Europe, il y a 100 fois moins d'homicides par an qu'il y a 5 siècles. À Oxford, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 1. Il n'y a que la Sicile où c'est 12 aujourd'hui. En moyenne, en Europe, c'est 1. Donc 100 fois moins. On n'a jamais vécu dans une société aussi sûre. Quoi qu'on en dise. Mais évidemment, dans les médias, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part. Le nombre de moyens de victimes par conflit a diminué 10 fois depuis 1950. Donc il y a des conflits partout. Mais si vous prenez l'ensemble du monde, c'est comme ça. La violence domestique est très importante encore, a diminué de moitié aux États-Unis par rapport aux enfants en 20 ans. Donc, je veux dire, ça va tout dans ce sens-là. Quels sont les facteurs? La démocratie. Il y a très peu de chances qu'aujourd'hui que la Belgique entre en guerre avec l'Italie. Ben, c'est vrai. L'Europe, il y a, au Moyen-Âge, il y avait 5000 entités politiques. Ils n'arrêtaient pas de se taper les uns sur les autres. C'était le sport national. Les ducs, les princes, ils se faisaient la guerre, ils rasaient les champs, mutilaient les paysans. Sous Napoléon, 250, aujourd'hui 50 pays démocratiques. Le statut de l'éducation, le statut des femmes est très important. C'est un des gros facteurs. Et les échanges. Quand vous allez raser ou faire une razzia sur les ressources du pays voisin, vous en fichez de ce qui lui arrive. Mais si vous échangez avec lui ou avec quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit prospère et en vie que mort et ruiné. Donc tous ces facteurs font que, effectivement, les plus grands risques de conflits sont des pays qui sont isolés, où l'éducation est très faible, où il y a très peu d'échanges avec l'extérieur, où il y a des démocraties soit absentes, soit dysfonctionnelles, et où le statut de la femme est très bas. Parce qu'elles ne peuvent pas contrôler, ils ont 7-8 enfants qui font n'importe quoi. Donc si vous voyez tous ces facteurs-là, c'est des choses qu'on veut voir sur le long terme. Et de dire, ben, au moment de la crise, l'altruisme ne sert à rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est toujours pareil. Tous les grands génocides, il y avait des signes précurseurs qu'on a toujours négligés. Donc c'est ça, l'altruisme consiste aussi à aller aux racines des problèmes au moment où on voit qu'ils commencent à survenir.
On va essayer de prendre encore deux questions, parce qu'on se rapproche dangereusement de Morges. Madame.
Vous avez déjà un peu répondu à ce que je voulais amener. Quelle analyse faites-vous de l'idée de déstabiliser notre société européenne justement par l'afflux de réfugiés qui seraient... c'est vrai, avant, personne ne sortait de la Syrie. Maintenant, on en sort. Et ils viennent ici. Et certaines idées disent que c'est pour mettre le souk ici. Enfin, également les destructions culturelles, etc., etc.
Quand on écoute ce que disent les réfugiés... Ils ne viennent pas pour mettre le souk, ils viennent pour survivre.
C'est madame.
Hein, ça, c'est la majorité. Échapper à l'horreur, échapper au massacre. Il y a 10 000 ans, quand il y avait 5 millions d'habitants, il n'y a pas non plus de frontières. Quand il y avait un cataclysme quelque part, les gens y bougeaient. Et le fait qu'on ne puisse pas bouger parce qu'on souffre quelque part, c'est quand même une imposition totalement artificielle et finalement inhumaine, je veux dire. C'est pas concevable que si votre maison est en feu, on vous empêche d'en sortir. Donc là, il y a un problème éthique, et certainement, ce n'est pas évident à régler du point de vue social, mais il y a aussi quand même une considération plus vaste à avoir. Mais ça montre d'autant plus que, de nouveau, on a négligé les causes de tout ça, qui sont les inégalités, qui sont les différences entre les pays nord-sud. C'est certain que si, en Afrique, il y avait suffisamment d'opportunités pour l'éducation, pour se nourrir, pour résoudre les conflits, pourquoi sortir d'un endroit quand les choses vont relativement bien ? C'est quand ça va très mal qu'on a envie d'aller ailleurs. Mais si on pense que c'est simplement en essayant de fermer les frontières qu'on va y arriver, les prédictions de Lincoln Stern, qui a étudié les répercussions économiques et humaines des changements climatiques, donc un prix Nobel d'économie quand même, il pense à 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. La moitié du Bangladesh est en sous l'eau. Quand vous aurez 50 millions de Bangladeshis qui vont venir au Bengale en Inde... Ça va pas être rigolo, parce que les conflits, toutes les difficultés. Donc, c'est vrai que c'est un signe avant-coureur, qu'il y ait 20 000 personnes qui aient traversé la Méditerranée, dont 2 000 sont mortes. C'est tragique. 200 millions de réfugiés climatiques, ça sera autre chose. D'où l'importance pour les nations, et je crois que les citoyens commencent à s'en rendre compte. Il faudrait bien qu'il y ait 1 million de personnes qui marchent dans la rue à Paris pour dire aux dirigeants, avant la réunion de la COP21, c'est nos enfants, nos petits-enfants, l'avenir de toutes les générations à venir de l'humanité, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est pas seulement si vous êtes populaire dans les sondages, parce que c'est des mesures qui vont pas être très populaires. Mais quand on va voir le médecin qui vous dit ben, il faut faire une opération, c'est pas rigolo, mais c'est pour survivre. Ça sera pas rigolo de remplacer progressivement les énergies fossiles par des énergies, etc. Mais on pourrait dire commencer par lui donner 400 milliards de subventions pour maintenir le prix du pétrole à un prix acceptable. Si on mettait tout ça vers les énergies renouvelables, ça irait plus vite. Donc c'est toute une vision des choses qui doit évoluer. C'est là où l'évolution des cultures est importante. Et ça ne sera pas du jour au lendemain, malheureusement. On aimerait bien.
Et ça se fera par des crises. Madame.
Il faut appuyer sur le...
On vous entend, allez-y.
Je voulais revenir sur
plus
la...
Plus près.
Je voulais revenir sur la différence. Vous avez parlé de la différence entre l'altruisme et l'empathie. Et puis au début de la conférence, on a parlé des bons sentiments, avec un peu sous-entendu cette forme de mépris des bons sentiments. Est-ce que... Ah non, je l'ai mal compris.
Pas de mépris. Se demander si les bons sentiments sont quelque chose qui peut prendre et qui peuvent avoir vraiment une influence sur une grande population.
Moi, j'ai le sentiment quand même, quand on parle d'une personne qui a de bons sentiments, qui a une forme de... Comme quand on dit quelqu'un qui est gentil, Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un terme ambigu. Alors, je voulais savoir si vous aviez médité sur les bons sentiments et s'il y avait une zone du cerveau particulière aux bons sentiments. Est-ce que le bon sentiment peut être une voie vers l'altruisme ?
Vous avez tous les deux raison. Quand on parle de bons sentiments, de gentillesse, c'est un petit peu dérogatoire. Non pas qu'en eux-mêmes, les bons sentiments, c'est tout ce qu'on souhaite. La gentillesse aussi, qui préférerait quelqu'un de totalement désagréable, vaut mieux quelqu'un de gentil, n'est-ce pas? Mais ça fait un petit peu, on vous dit, vous êtes naïf, un peu bisounounours, quoi. Donc, ça fait partie de cette vision des choses qui vise, en fait, indirectement à dire, nous sommes fraudeurs. Vous rêvez. Il y a gratter la surface d'un altruiste, c'est l'égoïste qui va saigner, aller au fond des choses, vous verrez bien qu'ils sont tous égoïstes. Et quand quelqu'un qui avait l'air honnête fait un larcin, dit voilà, c'est la nature humaine a repris le dessus. Et ce qu'on oublie, c'est la banalité du bien. Regardez, quand on va arriver au quai là, je vais pas vous dire waouh, génial, personne s'est tapé sur la figure là pendant le. Non! S'il y a deux personnes qui se tapent sur la figure, vous en parlerez pendant 15 jours. Il y avait deux personnes qui parlaient de l'altruisme, puis il y en a deux types qui se sont tabassés dans un coin, parce que c'est pas normal. C'est aberrant, c'est extrême. On en parlera peut-être à la télé, c'est pour peu qu'il y en a qui se jettent à l'eau et tout. Mais on dira pas ce soir aux nouvelles, il y avait 200 personnes qui ont été très sympathiques les uns avec les autres, qui se sont comportés décemment. C'est pas une nouvelle. Vous n'allez pas dire, en arrivant, c'est génial, personne ne s'est bagarré. Ça prouve aussi que c'est l'état de la ligne de base. On ne voit pas ce qui est... Donc, c'est la banalité du bien. Et les psychologues qui ont étudié l'altruisme, d'abord ont montré que la théorie de l'égoïsme universel, c'était de la science de salon. Il n'y a jamais une seule étude qui l'a confrontée. Alors, les bons sentiments, effectivement, c'est des qualités humaines fondamentales. C'est la bonté, c'est la bienveillance. C'est la gentillesse, pourquoi, qui est une expression de cela. Et c'est effectivement ça qu'on développe par l'entraînement de l'esprit et la méditation. C'est ça qui mène à davantage de coopération. C'est ça qui mène davantage de sollicitude. C'est une question de vocabulaire, mais on est en plein dans différentes formes de l'altruisme.
Monsieur.
Si on regarde dans la nature, dans la plus vaste définition, il y a les herbivores et les carnivores. Vous croyez-vous pas que ça reste la possibilité de l'équilibre ? Le problème de l'homme, c'est qu'on est trop nombreux, on veut tout avoir.
Alors, on a beaucoup parlé à propos de l'évolution, parce qu'on parlait des choses globales, de la compétition, de la lutte pour la survie, la survie de celui qui est le plus fort, en gros. On est un peu revenu là-dessus. Enfin, je veux dire, d'abord, on est revenu parce que Darwin parlait énormément de coopération. Il parlait même, à un moment donné, de capacité d'étendre la bienveillance à d'autres espèces que la nôtre. Il était assez visionnaire de ce point de vue-là. C'est un petit peu après, lui, qu'on en est venu à ce qu'on appelle le darwinisme social, du chacun pour soi, le plus fort triomphe, allez-y, etc. En fait, maintenant, tous les travaux sur l'évolution montrent que certes, la compétition existe. Il y a des prédateurs, etc. La violence existe dans la nature. Mais en même temps, il y a cette même déformation qu'on voit dans les médias à propos de la violence dans la société. Parce que si vous filmez un lion 24 heures sur 24, il dort 18 heures en gros. Mais ça ne fait pas un documentaire sur le National Geographic. C'est deux fois par semaine, quand ils réussissent à coincer une malheureuse gazelle, là, on voit ça dans tout le temps. Mais tout le reste du temps, ils sont là à dormir, à jouer avec leurs petits et tout ça, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, en gros, si vous voulez, là où sont venues les théories de l'évolution les plus actuelles, c'est que la coopération, si la compétition existe, évidemment, il ne s'agit pas non plus d'avoir une vision naïve de la chose, mais que la coopération à tous les niveaux, déjà très élémentaire, comme des organismes pluricellulaires par rapport à des amibes, la coopération à toutes sortes de niveaux a mené, a été le moteur créatif pour arriver à des degrés croissants de complexité dans l'évolution, jusqu'à arriver à des animaux sociaux, etc. Donc c'est très intéressant que la compétition à elle seule, finalement, n'aurait peut-être pas mené à cette incroyable diversité, notamment à l'espèce humaine et à toutes les espèces les plus évoluées. Donc je crois qu'il faut voir un peu l'ensemble du panorama.
Est-ce que vous êtes un homme heureux ?
Secret d'État.
Je voulais juste revenir sur l'empathie. Vous parliez d'empathie qui peut amener au burn-out. Est-ce que la méditation peut aider des personnes qui sont dans ce cas de figure ?
Alors, dans ce qui aide, méditation ou pas méditation, c'est de cultiver l'amour altruiste. Et ça, oui, Tania Singer l'a bien montré. Mais ce n'est pas la méditation, on est là, encore une fois, avec de l'encens et tout.
Non, sans parler de...
Mais même en 10 jours, ça fait une différence. Elle a fait cette étude d'un an, mais au préliminaire, elle a fait une étude de 10 jours. Pendant 10 jours, elle a pris 50 volontaires. C'était à Zurich, donc tous les volontaires qui se présentaient. Un groupe a fait de l'empathie. Et au bout de 8 jours, même en prenant le tram le matin, ils voyaient la souffrance partout, ils arrivaient en pleurs au labo. Mais c'est vrai. À tel point que donc, le groupe qui est l'amour altruiste n'avait pas du tout ces symptômes-là. À tel point qu'on a dû venir au secours du groupe empathique pour rajouter 2 jours de formation à l'amour altruiste pour compenser. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empathie, ce n'est pas une maladie. C'est essentiel pour connaître l'état de l'autre. Si vous êtes un psychopathe, ils ne sont pas du tout empathiques. Ils s'en fichent totalement. Ils coupent les gens en morceaux. Ils trouvent ça très bien. Donc l'empathie vous sert à vous alerter, l'autre est joyeux ou l'autre souffre. Ça c'est l'empathie affective. L'empathie cognitive, je suis assis dans l'avion à côté d'une personne qui est terrifiée dans les avions, moi je trouve ça très sympa. Donc je ne ressens rien de ce qu'elle ressent, mais je peux savoir qu'elle est très mal à l'aise et faire quelque chose pour l'aider. Donc c'est l'empathie cognitive. Donc ça nous renseigne sur l'état de l'autre. Une fois que c'est fait, il faut passer à un autre mode de relation, à savoir si la personne souffre, amener cette sphère beaucoup plus vaste et constructive et qui augmente votre courage au lieu de le miner, qu'est l'amour altruiste. Et ça, ça a été montré aussi bien par les scientifiques que c'est une expérience aussi que tous les contemplatifs ont vécu. L'amour altruiste est un baume, est un antidote à la détresse empathique. Pourquoi ?
Mais il n'y a pas de méthode ?
Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'empathie, la détresse empathique, c'est l'impact que la souffrance a sur vous. Donc c'est orienté vers vous. La compassion et l'amour altruiste est orienté vers l'autre. Le médecin sur le champ de bataille, si je commence à pleurer dès qu'il voit un blessé, ça ne va pas aller très loin. Donc plus il y a de blessés, plus il y a du courage. Donc ça se développe. Il faut cultiver l'amour altruiste. C'est tout simple.
C'est tout simple, comme vous dites. Une toute dernière question. Monsieur...
Oui, bon. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué par rapport aux différents mondes sur. Essentiellement les mondes occidentaux, hein, on va dire les sociétés capitalistes. Vous avez évoqué qu'elles elles polluent actuellement, hein, de façon fréquente. Elles ont, par le passé, elles ont évolué. Elles ont fait beaucoup de colonialisme, d'impérialisme. Elles ont véhiculé des modes de vie, des conceptions de vie. Et on se rend compte qu'on les pointe du doigt en permanence, dans leur attitude. Et c'est souvent à ces sociétés-là qu'on fait appel pour guider l'humanité. Je trouve qu'il y a quand même des paradoxes, parce que malgré tout, elles ont instauré des démocraties. On se rend bien compte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit, on n'aura jamais plus une déclaration de guerre entre la Belgique et l'Italie, par exemple. Et malgré tout, bon, je pense qu'à travers les problèmes, même parfois les monstres qu'elles ont engendrés, comme Hitler, elles ont su trouver des antilles. On va dire des antilogues, je ne sais pas si c'est le terme, mais elles ont réussi justement à pouvoir créer des anti-monstres, si je peux me permettre l'expression. Et grâce à ces problèmes, elles ont pu faire évoluer le mode de vie. Et c'est la sensation que j'ai, moi. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que souvent, on montre le monde occidental du doigt un peu trop vite, il me semble. C'est une question, hein. C'est...
On a juste le temps pour la réponse, parce qu'on aborde.
En tout cas, c'est pas la façon dont, personnellement, je perçois les choses. Je pense que la démocratie est certainement... La liberté alliée à la responsabilité est de loin la manière d'être la plus désirable. Non, je vois pas pourquoi... Non, mais ce qui est différent, c'est certaines tendances qu'on trouve ici, mais qu'on trouve aussi ailleurs. Vous allez à Hong Kong ou à Singapour ou en Corée du Sud, la tendance à l'individualisme et à la société de consommation est aussi intense, sinon plus qu'en Europe, par exemple. Donc c'est une question plutôt de différentes visions, ce à quoi on tend vers l'existence. Mais je crois que ces divisions Est, Ouest, etc., c'est un tout petit peu trop rapide.
Nous arrivons à quai bientôt. Mathieu Ricard, vous allez dédicacer tout à l'heure.
Moi, je fais les instructions, hein, je sais ce qu'on oui. dit.
Alors, je ne connais pas votre programme.
Je crois, mais
je m'occupe seulement des tables rondes, je ne sais pas les dédicaces. Mais vous allez sous la tente.
Je crois,
donc vous pourrez retrouver Mathieu Ricard.
Ouais,
pardon.
Il y a des gens qui savent mieux que moi. Hein?
À quelle heure? 12h30. Ah ben, vous n'avez pas trop de temps, là. Donc on vous attend sous la tente. Privé de repas végétarien. C'est dur.
Même pas.
Je remercie Mathieu Ricard d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il faut vous arrêter auprès de madame dont j'ai pas retenu le nom, mais qui va vous parler de... Florence ? Laurence, qui va vous parler de Karuna, et puis que vous retrouverez les livres nombreux, parce que là on n'en a qu'un, mais il y en a beaucoup d'autres, sous la tente également, que vous accepterez de dédicacer tout à l'heure, et puis ne ratez pas le prochain, parce qu'on n'a pas parlé de photo, mais la photo est une chose très importante dans votre vie, vous êtes fasciné par l'image, vous en créez de très belles, et le prochain livre sera en noir blanc, donc une méditation en images. Enfin, donnez-nous, on a encore une minute, je crois, pour vous raconter ce qu'il y a dans votre prochain livre.
Oui, ben, si vous voulez, moi, j'avais été invité à un festival de photos qui s'appelle Visa pour l'image, qui sont du photojournalisme, il y a une quinzaine d'années, à Perpignan. Et j'avais été frappé que sur 35 expositions, c'était tout, à l'époque, c'était le Kosovo, il y avait la mafia, il y avait que des souffrances et des trucs terribles. Et il y avait Olivier Folmy et moi-même, on avait une exposition qui était un tout petit peu... on respirait, quoi, en gros. Donner un peu de confiance dans la nature humaine, dans la beauté de la nature, etc. Donc, c'est vrai que c'est un parti pris de parler de visage de paix et terre de sérénité. Mais je sais bien, il y a suffisamment de monde qui montre la souffrance et il faut le faire. Mais il faut aussi ne pas perdre espoir, sinon on tombe dans le syndrome du mauvais monde. Tout le monde est mauvais, le monde est terrible, tout est foutu, les gens sont méchants. Donc, il faut montrer que ce n'est pas le seul aspect de la nature humaine. Donc, j'ai choisi de montrer la beauté des êtres, même au sein de la tragédie, comme au Tibet. La beauté des paysages pour qu'on soit inspiré pour essayer de préserver la nature et pour se dire que finalement, nous ne sommes pas tous aussi mauvais que certains veulent bien le dire.